Bonjour, voilà comme promis, je réenregistre mon message de dimanche matin parce que voilà, il faisait 40 degrés et nous avions ouvert toutes les fenêtres de la chapelle parce qu'il faisait très chaud, on voulait faire des courants d'air mais on n'a pas réalisé qu'il y avait les cigales. Vous savez qu'on est dans le sud-ouest et il y a les cigales. Et quand j'ai voulu réécouter mon message, j'ai dit mais c'est épouvantable, les cigales prêchent plus fort que moi. Donc je réenregistre ce message afin que vous puissiez l'écouter proprement, parce que je pense que ça vaut quand même la peine de faire les choses d'une façon propre. Alors donc, voilà. Je recommence. Vendredi soir, donc, je vous parlais du fait de comprendre que nous sommes morts à l'égard du péché. Et on trouve ça dans Romains chapitre 6 et verset 2, où il est dit clairement, nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment alors vouloir vivre encore sous son empire? Alors, comment se fait-il que, même en tant que chrétien, eh bien, nous arrive encore de pécher? Si nous sommes morts au péché, comment ça se fait que, de temps en temps, ça nous arrive de pécher? Eh bien, la vie chrétienne commence par une mort au péché. Le verbe que Paul emploi là est au passé. Nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que quand Jésus-Christ a été crucifié, nous étions crucifiés avec lui. Paul dit, nous sommes morts au péché à la croix, il y a plus de 2000 ans de cela, alors comment vivrions-nous, là le verbe est au présent, comment vivrions-nous maintenant dans le péché, puisque nous sommes morts il y a déjà 2000 ans? Alors, il laisse comprendre que ce n'est pas une impossibilité absolue de pécher. Nous avons toujours le pouvoir de pécher. Mais Paul nous fait comprendre que si nous vivons encore dans le péché, c'est une incongruité morale. Alors, une incongruité morale, c'est une manière de penser, de parler et d'agir qui est contraire à la bienséance. Quelque chose d'incongru, c'est quelque chose de déplacé, c'est quelque chose d'inconvenant. Il ne convient pas à des chrétiens de pécher. Il dit, nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Alors, comment vouloir encore vivre sous son emprise? Il pose la question. Alors oui, nous avons été justifiés par Dieu, par la mort de Jésus sur la croix. On va lire Galates 2, 16, 17. Galates 2, 16, 17. Voyons, 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 voyons. Cependant, nous avons compris qu'aucun homme ne gagnera l'approbation divine par la pratique des œuvres légales. Personne ne sera justifié en accomplissant ce que la loi commande. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu et considérés comme justes. C'est pourquoi nous aussi, nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons trouvé la vie véritable et la faveur divine, non pas en respectant la loi, mais en croyant en Christ. Car, comme il est écrit, nul n'obtient d'être regardé comme juste devant Dieu en accomplissant une loi. Mais si maintenant nous aussi, qui cherchons l'acquittement de notre culpabilité et l'approbation divine dans la communion avec Christ, nous sommes trouvés en faute, serait-ce Christ qui nous aurait incités à pécher, puisqu'on est en Christ? C'est impossible. Si on nous traite de pécheurs, ce reproche atteint Christ lui-même, qui, dans ce cas, servirait donc la cause du péché. Vous voyez, il va très loin, l'apôtre Paul. Jamais de la vie, il dit jamais de la vie. Ah, certes, si je me mettais à réédifier le système de la justification par la loi que j'ai renversée, je me constituerais par là transgresseur. Mais je ne suis pas prêt de le faire, car en réalité, c'est en cherchant à accomplir la loi par l'Ancien Testament qui m'a conduit au Christ que je suis mort à la loi. J'ai trouvé ma condamnation dans la loi. Je suis libre de vivre pour Dieu. C'est à lui que ma vie appartient. Désormais, la mort de Christ en croix a aussi été la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, ce n'est plus ce n'est plus mon ancien moi qui est à l'œuvre, c'est Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi. Alors, comme dit l'apôtre Pierre, Paul, des fois il écrit, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous expliquer pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Je veux pas prêcher simplement pour prêcher, je veux prêcher pour que ça soit clair. Donc, il peut pas y avoir de purification, de justification par lui, par Jésus-Christ, sans une union avec Jésus-Christ. Nous avons à démontrer notre identification avec Christ par notre mise à part pour lui, c'est-à-dire par notre sanctification. Nous sommes réellement sauvés par Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est immérité, mais nous avons maintenant à vivre correctement et non dans le péché. C'est ça que l'apôtre veut dire. Jean le précise bien, on va lire dans 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5, voilà ce qu'il dit. 1 Jean 1, 5, voici le message que, c'est Jean qui parle, c'est plus Paul, hein. Voici le message que nous avons entendu du Seigneur et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous affirmons être en communion avec lui tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Jésus est la vérité et il a des exigences. Si par contre nous vivons dans la lumière tout comme le Seigneur lui-même est dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus-Christ son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Vous voyez, il dit bien, nous sommes morts pour le péché, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas pécher. Si nous prétendons être sans péché, on se trompe nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, il agira selon ce qu'il a promis, et ce qui est juste, il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons nous n'avons pas de péché, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Mes chers frères, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat, Jésus-Christ. Celui qui est sans péché, il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qu'il nous faut, ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier? Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Ah, tiens, les lois? Oui. Si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais, et s'il ne suit pas ses directives, les directives? C'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans la communion permanente avec lui doit aussi vivre comme le Seigneur a vécu. Oh ! Paul et Jean ne se contredisent pas. Ils disent bien que nous avons été sauvés par Jésus, c'est une grâce, mais maintenant on a à vivre comme Jésus vivait. Selon les commandements de Jésus, selon le commandement des apôtres, voilà pourquoi il est nécessaire de connaître et de comprendre les enseignements de Jésus, les commandements des apôtres. Nous avons été justifiés par la foi, et maintenant nous vivons selon les commandements de Jésus et des apôtres. Laissez-moi vous donner une image de ça. Vous savez qu'une des caractéristiques de la vie, c'est la faculté de réagir à un stimulus. C'est-à-dire, vous stimulez quelqu'un de vivant, il va bouger. Par exemple, je prends un exemple tout bête, vous marchez dans la rue, puis vous voyez un chat étendu dans le caniveau. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Eh bien, touchez-le du bout du pied, et vous allez voir, vous saurez tout de suite. S'il est vivant, il va immédiatement bondir, et puis s'en aller immédiatement. S'il est mort, il n'aura aucune réaction. Cette bête restera là, sans bouger, dans le caniveau. Eh bien, le fait d'être mort au péché signifie que nous sommes nous ne sommes pas sensibles à son égard, à ses stimulus. Nous ne sommes pas sensibles à ses tentations. On a le pouvoir de dire non. On est mort. On est mort au péché. Nous sommes morts pour lui. Quand il essaie de nous stimuler, on ne bouge pas. Nous sommes comme des cadavres. Bon, on est bien vivants, mais nous sommes, pour le péché, nous sommes des cadavres. Et quand il veut nous stimuler avec une tentation, ben on réagit pas. C'est ça que ça veut dire, nous sommes morts au péché. Romains 6, 6 nous dit que non seulement Jésus a porté nos péchés, mais aussi notre chair, notre nature de pécheur. On va le lire, c'est beaucoup plus simple. Je le relis. Romains 6, 6. Comprenons donc que notre vieux moi a été cloué à la croix avec Christ afin que notre vieille nature pécheresse fût réduite à l'impuissance et que le corps, notre corps, votre corps, instrument docile du péché, fût neutralisé. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et nous n'avons pas besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité, le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Vous voyez, non seulement Jésus a porté nos péchés, mais aussi notre chair, notre nature déchue, a été clouée à la croix, elle a été tuée. Et notre devoir est de considérer que notre nature est morte, quelles que soient les preuves que nous ayons du contraire. C'est ce qu'il dit au verset 11. À vous donc maintenant de prendre la même attitude, vous êtes mort vis-à-vis du péché, considérez-vous donc comme mort à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous, d'autre part, comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on est mort au péché, c'est-à-dire il peut nous solliciter, on bouge pas, on est mort. Par contre, on doit le considérer, on doit comprendre ça et considérer que c'est une vérité. Ça, c'est la foi. Et puis aussi, considérer que nous sommes vivants pour Christ, pour faire ce qu'il dit. Vous voyez? Notre devoir est de considérer que notre nature déchue est morte, quelles que soient les preuves que nous ayons du contraire. Cette mort, accomplie à la croix, donne donc aux chrétiens qu'il comprend qu'il peut être insensible au péché autant qu'un homme mort l'est à l'égard des stimulus du péché, des tentations. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça, la foi. C'est croire ça, que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu. La foi vient de ce qu'on entend Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Maintenant, j'aime bien dire que le mot entendre et le mot comprendre, c'est pareil. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors on dit, ah ben, il faut aller écouter la parole de Dieu. Non, le mot entendre veut dire comprendre, le mot comprendre veut dire entendre. Quand vous me parlez, qu'est-ce que je vous dis? Oui, je t'entends bien. Ça veut dire oui, je te comprends bien. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on comprend. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous vivez dans l'illusion. Nous sommes dans ce monde tel que Jésus était dans ce monde. Vous allez me dire, ah bon, mais ça c'est un peu fort. Mais non, je vous l'ai déjà dit, 1 Jean 4, 17, mais je ne me lasse pas de vous le redire. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous sa perfection de sorte que nous pouvons envisager une confiante assurance. Nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme il y a vécu lui-même. Ah bon? Ben oui, nous vivons dans ce monde comme il y a vécu lui-même. Je vais dire, mais Michel, tu exagères quand même. Non, c'est pas moi qui exagère là. C'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi. C'est Jean, c'est l'apôtre Jean. Et si vous voulez pas croire Michel Janton, croyez au moins l'apôtre Jean. Si vous ne voulez pas croire Jean, vous n'avez rien à faire avec Dieu. Tel qu'il est, nous sommes aussi, tel qu'il était dans le monde, on est dans le monde. Jésus, il était aussi sollicité par le péché. Vous allez me dire, mais non, mais si. Il était tenté en toutes choses comme nous. Hébreux 2, 18, je vous lis le texte. Parce qu'il a subi lui-même la tentation, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Et au chapitre 4, versets 15-16, c'est encore plus clair. Alors, 15-16. En effet, notre grand prêtre, c'est-à-dire Jésus, qui plaide pour nous, n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône avec une grande confiance et avec une libre et joyeuse assurance. Nous y trouverons compassion et grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Je vous fais réfléchir. Vous avez des tentations. Moi, j'ai des tentations. Vos tentations ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Pourquoi Jésus dit « ne juge pas » Alors, on est là en train de juger. Oui, tel péché, ça c'est très grave, tel péché. Oh là là, heureusement que je ne suis pas comme lui, sale pécheur, machin, tout ça. Jésus a été tenté en toutes choses. Vous arrivez à imaginer ça, que Jésus a été tenté en toutes choses, comme le pire des pécheurs. Mais il n'a pas péché, mais il a été tenté afin de pouvoir comprendre ceux qui sont tentés et de les secourir. Voilà, je crois que je vous en ai dit assez. On reviendra vendredi prochain sur ces choses. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez, méditez à toutes ces choses. C'est très précieux. C'est très précieux. C'est l'essence même de la foi dans notre salut en Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.